Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL. Bonjour Anaïs Bouton.
Bonjour.
Et Thomas Huc, je ne me suis pas trompée.
Non, appelez-moi Pascal.
Appelez-moi Josiane.
Ça sera beaucoup plus
bonjour.
Simple.
C'est moins bien, Josiane.
Salut Christelle. Mais non, c'est
alors,
joli,
si je vous dis qu'il est plus ou moins français, qu'il peut être torride, qu'il a plus d'un siècle et qu'il est bleu, non, je ne vous parle pas de Thomas Huc. Je ne vous parle pas non plus d'un schtroumpf, mais je vous parle du jean. On vous
c'est
raconte
sympa,
l'histoire
ça.
De ce vêtement unique
plus
à 14h30 sur RTL.
Je rêve. Bon allez, salut Christelle, tout
amusez-vous
de suite.
Bien,
oui,
c'est
on va
bien
s'amuser,
parfait.
On va essayer. Allez, on ouvre notre émission en empruntant des chemins de traverse. Mais oui, avec Harry Potter et son monde magique.
Excusez-moi, mais qui êtes-vous?
Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr.
RTL.
Il va devenir célèbre. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom.
En effet.
La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Huc.
Bonne chance, Harry Potter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est La Curiosité sur RTL. Science, histoire, grand destin, saga musicale, aventure, nature. Tout nous passionne, tout nous réunit avec Anaïs, même si elle me vieillit un peu. Bonjour
j'adore
Anaïs.
Ça. Vous avez une carte de presse vieille comme Mathusalem.
C'est pour
bonjour
ça.
Bonjour Thomas, salut les curieux. C'est donc par le monde merveilleux d'Harry Potter que s'ouvre cette émission. On vous raconte l'histoire de J.K. Rowling et de ses sorciers.
Mais oui, bonjour Jean-Louis Fedjen.
Bonjour.
Bienvenue, vous connaissez bien la maison puisque vous avez été l'un des auteurs de Laurent Gérard pendant plusieurs années. Donc, bienvenue chez vous, on va dire ça
merci,
comme ça.
C'est gentil.
Vous êtes également auteur de Fantasy, c'est la sortie du film Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald qui nous a donné envie de vous inviter. Tiens d'ailleurs, écoutez bien notre émission, tout à l'heure on vous posera une question qui va vous permettre de gagner deux places pour le film et aussi un pack de goodies, plein de petits cadeaux, il y aura notamment une baguette magique à l'intérieur. Allez, on commence sur cet univers d'Harry Potter, le film dont on parle, les crimes de Grindelwald. Il est lié à cet univers, on y retrouve quoi ?
Alors, il est lié, surtout ce deuxième tome, il est lié à l'univers. Le personnage de Norbert Dragono était évoqué déjà dans les premiers Harry Potter. J.K. Rowling avait écrit un petit livre en 2001 qui s'appelait « Vie et habitat des animaux fantastiques ». Prétendument signé Norbert Dragono et qui faisait partie des manuels scolaires de Poudlard. Donc Harry apprenait les animaux fantastiques comme ça. C'est un personnage qui sévit 65 ans avant Harry Potter. Et donc dans le deuxième volet de sa saga, hein, il va y avoir 5 films, le lien avec Harry Potter est beaucoup plus étroit puisqu'on voit des personnages essentiels, notamment Albus Dumbledore qui va devenir le directeur de Poudlard, qui est là.
Et donc on le retrouve beaucoup plus jeune.
On le retrouve beaucoup plus jeune et sur les traits de Jude Law, donc c'est formidable. Et puis aussi le personnage de Minerva McGonagall qui était joué par Maggie Smith dans les Harry Potter, donc l'un de ses profs.
Le talent de J.K. Rowling, c'est d'avoir inventé un univers. C'est pas la seule, hein. Il y a d'autres auteurs qui ont fait ça. Un univers qui est particulièrement riche. Et avec, alors ça c'est peut-être un peu plus original, des personnages qui vieillissent. C'est original dans ce genre de littérature.
Oui, c'est fréquent, hein, mais ça a rarement été poussé à ce point-là. Mm-hmm. Parce que non seulement les personnages vieillissent, mais l'action se densifie au fur et à mesure que son lectorat et ses personnages vieillissent. Ça commence comme finalement un conte de fées, d'une certaine façon. C'est très les premières hypothèses. D'ailleurs, quand on les revoit aujourd'hui, on se dit à quel point ils sont petits, ils sont mignons, etc. Ouais. Ça commence, même visuellement, c'est plein de couleurs, c'est doré, c'est rouge, c'est chatoyant. Et puis ça évolue progressivement vers ce qu'on appelle la dark fantasy, presque de l'horreur. Disons à peu près les 4 premiers films sont dans un univers de construction.
La formation.
La formation de Harry. Et puis à la renaissance de son ennemi Voldemort, à la fin du quatrième film, la saga bascule dans...
Vous avez prononcé son nom, là.
Ah oui, j'aurais pas dû.
Celui dont on ne doit pas prononcer
celui
le nom.
Celui dont on ne doit pas prononcer le mot.
Mais d'un autre côté, on portait l'œil, là. Ouais. C'est
bah non, parce qu'il a été liquidé, donc c'est bon, on peut
mais
le
oui,
dire.
Mais oui, c'est bon.
Alors, Jean-Louis Fedjen, donc vous publiez ce livre, La Fantaisie pour les nuls chez First Edition. Est-ce qu'on peut dire justement que la saga Harry Potter a fait sortir ce genre de littérature de l'anonymat ?
Non. Ah. Non, pour deux raisons. D'une part, parce que Harry Potter, c'est de la fantasy, mais fondamentalement, c'est plutôt du fantastique. Ce qui conduit à vous expliquer la différence entre les deux. Si on est dans ce studio où nos éditeurs sont dans leur voiture, ouais. Si un vampire fait éruption dans le studio, c'est du fantastique. C'est-à-dire, le fantastique, c'est l'irruption du surnaturel dans la vie quotidienne. Or, Harry Potter se passe dans la vie normale, des moldus. Et y a de la magie qui arrive là-dedans. Mais comme il y a le Quai 9 3 quarts, comme il y a Poudlard, comme il y a le ministère de la magie, c'est-à-dire des endroits qui sont hors du monde et inaccessibles à nous, aux moldus, c'est de la fantaisie.
C'est un mix des deux.
La fantaisie, c'est l'existence d'un monde secondaire, non accessible aux humains. Donc c'est un peu un mélange des deux. Mais pour répondre à votre question, ce qui avait réellement marqué la fantaisie bien avant Harry Potter, c'est bien sûr le Seigneur des Anneaux de Tolkien.
Bien sûr. Mais c'est quand même un phénomène hallucinant en matière d'édition. Je crois que on en est à plus de 500 millions.
500 millions,
de ça, livres vendus dans le monde, traduits dans je ne sais plus combien, 80.
80 langues. Oui.
Dont alors il y a des langues. Il y a tout ce qu'on veut.
80
quoi.
Langues, il y a tout. Ouais, forcément, il y a l'hindi, l'hébreu, tout ce que vous voulez.
Le basque, le breton, le grec ancien. Enfin bon, on peut trouver du Harry Potter.
C'est un peu comme les mémoires de Michelle Obama, votre truc. Hein.
Oui, qui vont sortir bientôt chez Fayard. Et alors, cette histoire, c'est une histoire de persévérance qu'il faut suivre, une histoire de persévérance, parce que J.K. Rowling, d'ailleurs qui s'appelle Joanne Rowling, elle a dû se battre pour imposer son manuscrit, on peut dire ça ?
Ça a été une longue affaire. C'est un peu la Cendrillon de la fantasy, J.K. Rowling.
Combien d'éditeurs ont refusé
son manuscrit a été refusé par 12 éditeurs. C'est énorme. C'est-à-dire qu'elle a fait le tour de la place, véritablement. Ouais. Et au bout du compte, elle a été éditée par Bloomsbury, qui a tiré son bouquin à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, c'est misérable. C'est vraiment un tirage. Non, ils ne croyaient pas du tout. Et ça a marché tout de suite. Et alors, ce qui est amusant, c'est que ça a marché également tout de suite en France. La France est de loin le premier pays à avoir traduit Harry Potter. Mmh. Et ça a marché formidablement. Et c'est devenu un phénomène à partir du troisième, quatrième tome.
Bah vous allez nous expliquer justement comment Joanne Rowling est devenue J.K. Rowling.
Mais
je
ne
comprends pas
ce cas
du tout. Moi. Réponse dans un court instant sur RTL. A tout de suite, les curieux.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un livre que j'ai commencé à écrire peu de temps avant la mort de maman. Il y a des notes, des pages entières d'histoires que j'ai écrites, plusieurs ébauches de chapitres inachevés. J'ai déjà toute la trame du récit et tout ce qu'il faut pour le terminer.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
C'est le dernier chapitre.
Du livre ?
Du dernier tome. Le septième bouquin.
Sept ?
Ouais, si j'arrive au bout un jour.
La curiosité est un vilain défaut.
Harry Potter à l'école des sorciers de Joanne Rowling.
Oui.
Sur RTL.
Mais c'est un livre pour enfants.
C'est le monde de Harry Potter qu'on découvre dans La Curiosité. Alors, ce que François Touchard, dit DJ Latouche, a mis dans sa mise en onde, c'est le personnage de J.K. Rowling, qui est elle aussi, à côté de son livre, devenu un personnage presque de sa vie est un roman.
C'est l'extrait d'un film qu'on vient d'entendre, La magie des mots.
Voilà. Et donc, vous le disiez tout à l'heure avec Thomas, 7 romans vendus à plus de 500 millions d'exemplaires, ce qui fait J.K. Rowling une des femmes probablement les plus riches d'Angleterre. Mais en 90, elle était au Portugal et ça allait pas, mais du tout.
Non, ça allait. Elle a eu une vie très compliquée. Elle a démarré sa carrière chez Amnesty International, puis à la Chambre de commerce de Manchester. C'est en faisant le trajet d'ailleurs entre Londres et Manchester que, à la suite d'un retard de train, son train a 4 heures de retard, elle commence à imaginer Harry Potter sur le quai, qui veut devenir le quai 9 3 quarts. Et puis elle est virée de la Chambre de commerce de Manchester. Elle trouve un poste de prof d'anglais à Porto, au Portugal. Là, elle épouse un gars, un journaliste de télé portugaise, qui est un type épouvantable, un type violent, qui la frappe. Ils ont un enfant ensemble. Elle divorce un an après. Et elle rentre au Royaume-Uni. Elle s'installe chez sa sœur. Elle est donc fille-mère. Elle n'a pas un sou. Elle essaye d'écrire Harry Potter depuis 2 ans. elle n'y arrive pas. Elle n'a plus de boulot, elle n'a plus de copains, elle n'a plus rien.
Elle a failli renoncer en voyant son manuscrit refusé comme ça.
Elle a failli renoncer. Elle a présenté son manuscrit sous forme de projet, c'est ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait. Sous forme de projet avec quelques chapitres achevés et en disant aux éditeurs, il va y avoir 7 tomes qui vont faire 3000 pages. Ouais. Bon. Donc évidemment, les éditeurs, ils disaient non. Et ça a été refusé par 12 éditeurs. Ça a été édité finalement par chez Bloomsbury qui n'est pas avec un tout petit tirage.
Ouais. Mais donc, alors, pourquoi ce cas? On disait ça tout à l'heure. Elle s'appelle Joanne Rowling. Pourquoi elle rajoute un cas pour signer son premier livre?
C'est en fait pour masculiniser son nom. Ah oui. J.K. On a le cas, c'est pour Kathleen, qui était le prénom de sa grand-mère qu'elle aimait beaucoup. Ça, c'est anecdotique. Ouais. Mais en fait, c'est surtout le fait que, comme d'autres auteurs de féminin de fantasy avant elle, elle a pris un pseudo qui pouvait passer pour un nom d'homme. J.K. Rowling, on peut croire que c'est un homme.
Mais
c'est,
pourquoi?
Ben,
ça se vendait, parce que ça c'est beaucoup plus mieux. Difficile d'être une femme mais dans la vie qu'un homme.
Non, mais c'est étonnant. Pourquoi le lecteur de fantasy ne lirait pas un livre écrit par une femme?
C'est étonnant. Je dois dire que c'est... aujourd'hui, par rapport à ce qui est devenu un fantasy aujourd'hui, c'est pas vraiment compréhensible. Mm-hmm. À l'époque... Bon, c'est pas si vieux, ça date, c'est en 1990, hein, ou dans les années 90. Mais à l'époque, d'autres femmes avaient fait ça. Je pense par exemple à Robin Hobb, dont le vrai nom, qui est l'auteur de L'Assassin Royal, dont le vrai nom est Megan Lindholm, c'est une femme, et elle a pris un pseudo masculin. La fantasy s'est féminisée énormément au fil du temps. Si vous regardez aujourd'hui, par exemple, Game of Thrones, les principaux héros de Game of Thrones sont des héroïnes. Hein, c'est une bataille entre Cersei et la Khaleesi. Donc, mais à l'époque, c'était... Oui, je simplifie.
Il y a Jon aussi.
Oui, il y a Jon, il y a Tyrion, il y en a plein. Mais enfin, bon, les femmes ont un rôle majeur. Et à l'époque, il y avait quand même ce qu'on appelle l'héroïque fantasy, c'est-à-dire une fantasy très, très masculine de garçon, finalement. Et peut-être que ça a un peu joué.
Alors, La fantaisie pour les nuls, c'est le titre du livre publié aux éditions First. On y découvre que le monde d'Harry Potter se décline dans le monde réel, on l'a dit tout à l'heure. Alors, démonstration avec la Coupe de France de Quidditch.
Une image de Potter, et c'est déjà beaucoup d'émotions. Mais si vous y ajoutez Valdemar, Hermione et Ron, là, on frise presque. L'hystérie.
RTL.
Bonjour, les enfants.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Désormais, vous aurez un programme parfaitement structuré et approuvé par le ministère dans ce cours de magie défensive.
La curiosité est un vilain défaut.
Bon, je ne crois pas que John Rowling soit passé par le Val-de-Marne pour inventer le personnage de Voldemort. Le journaliste qui faisait ce reportage a dû légèrement se tromper. En tout cas, nous, on vous propose de découvrir l'univers de Harry Potter à l'occasion de la sortie du film Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. On est toujours avec Jean-Louis Fedjen, qui est auteur passionné de littérature fantastique, fantasy, et qui publie La Fantasy pour les Nuls chez First Edition. C'est vrai qu'il y a une manie des fans Harry Potter depuis maintenant des années, puisque ça commence en 1997, si je ne me trompe pas. Oui, on est allé rencontrer certains de ces fans dans l'une des deux boutiques éphémères qui ont ouvert à Paris, qui vont rester ouvertes jusque début janvier. Ces fans, ces jeunes adultes qui ont souvent appris à lire ou découvert la littérature grâce à Harry Potter. Écoutez-les.
On a grandi en étant adolescent avec les livres, donc c'est vrai que c'est un univers qui fait vraiment partie de la culture populaire d'aujourd'hui.
Vraiment le côté magie, mais surtout le côté ancré dans la réalité. Ça reste quand même des personnages véritables, des personnages humains qui vivent à peu près à notre époque. On s'identifie plus facilement aux personnages d'Harry Potter.
Depuis mes 4 ans, j'adore.
Je pense pas que ce soit vraiment explicable en fait. C'est un monde auquel on adhère ou on adhère pas à tout l'univers magique. Quand on est petit et qu'on commence à regarder Harry Potter, on s'identifie aux personnages, on a envie d'être comme eux, et puis au final, on continue à développer ça et on le garde, quoi.
C'est incroyable, Thomas, d'entendre ces témoignages de gens qui ont connu la lecture. Vous-même, vous le lisiez pour votre fils. Ma mère le lisait pour sa petite fille. C'est quand même inouï.
Je le lisais en même temps. Oui, c'est-à-dire que mon fils a appris à lire, a découvert la littérature avec Harry Potter. Et moi, j'ai eu envie de lire ces livres qui le passionnaient. Et ça, c'est l'histoire de cette saga, du succès de cette saga.
C'est vrai que le succès de cette saga, comparé les ventes de Harry Potter, c'est près de 3 fois plus que Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, c'est 150 millions d'exemplaires, ce qui est déjà énorme. Oui. Mais Harry Potter, c'est 500 millions. Pourquoi ? Parce que ça s'adresse à tous. Seigneur des Anneaux, c'est extrêmement difficile à lire. La plupart des gens renoncent au bout de 100 pages parce que c'est vraiment difficile. Mmh. Alors que Harry Potter, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action, c'est facile, c'est simple à lire. Et puis, elle a réussi, ce qu'on voit bien dans le reportage, à fidéliser un lectorat qui a vieilli avec les livres.
C'est transgénérationnel. Ouais.
Et donc, si elle était restée avec des héros de 10-12 ans, elle aurait perdu ses lecteurs. Mmh. Elle aurait dû en reconquérir d'autres. Alors que là, ses lecteurs, qui avaient démarré avec une sorte de club des 5 dans l'école de magie, finissent sur, en étant des lecteurs adultes, jeunes adultes, et en lisant de la dark fantasy.
Alors, on l'a compris tout à l'heure, vous nous le disiez, elle avait en tête... toute la saga et en tout cas la trame des sept tomes, ce qui lui permet, quand elle arrive sur un tournage, de conseiller les comédiens. Il y a une anecdote étonnante qui concerne le personnage de Severus Rogue. Alors, oui. Severus Rogue, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est censé être un méchant, presque un allié de Voldemort. Qu'est-ce qu'elle lui dit au comédien qui interprète
Severus
Rogue ? Oui,
le comédien, c'est le regretté Alan Rickman, qui était un comédien excellent. Et dès le départ, quand on voit ce personnage de Severus Rogue, on se dit qu'il a un intérêt particulier pour Potter et on ne comprend pas bien. Mmh. Et c'est effectivement un personnage qui a l'air noir, d'abord il est habillé en noir, il devient l'un des serviteurs de Voldemort, ouais, ou de Valdemarne. il finit par tuer Dumbledore, donc on se dit c'est un méchant, il n'y a pas de doute, c'est un méchant. Sauf qu'on se rend compte, dans le dernier épisode, que c'est, en fait, toute sa vie, il a protégé Harry Potter, mm-hmm, qu'il était amoureux depuis très longtemps de la mère de Harry Potter, Lily, et qu'en fin de compte, c'était son ange gardien. Un ange noir, mais un ange gardien.
Et ça, c'est J.K. Rowling qui lui a soufflé.
Alors, comme on a entendu en premier reportage, oui, elle savait dès le début qu'il y aurait 7 tomes, et elle savait comment se terminerait, d'accord, le tome. Donc, elle connaissait son histoire. Mais les réalisateurs du premier film, deuxième film, troisième film, ne savait pas comment ça allait se terminer, c'était pas encore écrit. Et donc, elle va voir Alan Rickman, qui joue Severus Rogue, et elle lui dit, attends, je vais t'expliquer ce qui se passe pour ton personnage, mais ce que je vais te dire, tu le gardes pour toi-même. Et elle lui explique qu'en réalité, il est l'ange gardien de Harry Potter. Et du coup, la première réplique de Alan Rickman, la première phrase qu'il dit à Harry Potter, je vais vous la dire, il lui dit... Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise ? C'est quand même une question assez spéciale.
Et improbable.
Et improbable. Or, l'asphodèle, c'est une plante de la famille des lys, en anglais lily. Et l'armoise, c'est une plante qui est liée à l'absence. Et le lys, c'est une plante qui est liée à la mort. Donc en fait, quand on lui prononce cette phrase, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui passe ses condoléances. Il lui dit, je suis... désolé de l'absence de la mort de ta mère. C'est ça qu'il lui dit enfin.
Qui s'appelait Lily, effectivement. Lily, voilà. Allez, on continue de raconter l'histoire d'Harry Potter avec, comme promis, un petit tour sur les terrains de Quidditch version Moldu, c'est-à-dire ici sur Terre. On tient nos promesses. Et puis, juste après, l'histoire du jeans, le blue jeans.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et Harry Potter qui n'a plus de secret pour nous grâce à notre invité Jean-Louis Fedgen. Alors tout à l'heure, on a proposé un jeu à nos auditeurs. Il fallait répondre à la question, quelles friandises ont créé les frères Weasley ? Grillon sucette ou choco-grenouille ? La bonne réponse, c'était...
Choco-grenouille.
Les choco-grenouilles. Évidemment, grillon sucette, c'est une invention de Coralie Lutinier, notre
mais
productrice.
Formidable.
Mais ça doit être très très bon. La gagnante, c'est Aurélie Ternard qui a réagi sur Twitter et qui est de Tinqueux dans la Marne. Bravo à vous, vous remportez donc deux places pour aller voir les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et demain, tout au long de la journée, tous les auditeurs qui interviendront à l'antenne recevront eux aussi deux places pour aller voir ce film et un pack de cadeaux dans un tote bag, c'est-à-dire un sac en tissu, puisque j'ai appris que c'était ça. Merci beaucoup encore une fois, Coralie. Allez, un mot pour terminer, Jean-Louis Fedgen, le Quidditch. Donc, je rappelle en deux mots que c'est le sport des jeunes sorciers. Ils sont sur leur balai, il faut qu'ils attrapent un vif d'or, etc. Mm-hmm. Évidemment, c'est de la magie pure. Comment on applique ça sur le sol avec des moldus, avec des terriens ?
Ah oui, c'est un sport qui a été inventé, un sport entre guillemets qui a été inventé dans les universités américaines en 2001. Évidemment, personne n'a de balai magique, donc on peut pas voler dans le ciel avec son balai magique. Donc les gens courent avec un manche à balai entre les jambes. C'est-à-dire qu'on est dans un niveau de grotesque. Quand même... Moi, j'en ai en bas de chez moi à Vincennes, il y a des gens qui s'entraînent. Donc vous avez deux équipes qui sont déguisées en Harry Potter, hein, et ils courent avec un balai entre les jambes pour essayer de se faire des passes et mettre le ballon dans une sorte de panier de basket vertical.
Très bien.
Et dans les matchs de gala, il y a un type habillé en jaune qui fait le vif d'or et qui court très vite.
Parfait. Je ne vous demanderai pas comment le ballet tient. Merci beaucoup, Jean-Louis Fetgen. Donc, il y a La Fantaisie pour les nuls qui est publié chez First Edition. Et puis, tiens, je signale votre dernier roman. C'est de la fantaisie pure.
C'est de la fantaisie pure,
ça
orientale.
La Maudite. Et le titre, c'est Jean.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.